Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Elisabeth Ducoté. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
PDG de Tuane, à vos côtés, Léonidas Kalogeropoulos. Bonjour Léonidas.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments et président fondateur des Entrepreneurs pour la République. Et enfin François Eckhall. Bonjour François.
Bonjour.
Président aussi, fondateur de Fipeco.fr, la bible sur les finances publiques. Allez consulter Fipeco et les fiches de François, c'est absolument passionnant. Le premier sujet, je l'ai dit, c'est évidemment Choose France qui s'ouvre aujourd'hui. Le dernier d'Emmanuel Macron, le 9e exercice. Alors l'annonce du jour, c'est évidemment le contrat du siècle, 75 milliards de dollars investis par SoftBank notamment, qui est devenue cette nuit d'ailleurs la première entreprise japonaise, la première capitalisation, passée devant Toyota cette nuit même. Bref, une pluie de milliards, est-ce que c'est un game changer pour le niveau d'attractivité de la France?
Mais bien sûr, c'est un élément absolument essentiel. C'est d'abord un investissement d'une taille qui n'est pas uniquement spectaculaire pour Choose France. C'est par son montant, c'est effectivement un investissement absolument colossal. Et vous savez, il y a les commentateurs, mais qu'est-ce qui fait la valeur même affective d'un pays? C'est là où on entreprend, c'est là où on investit. Il y a plein de gens qui commentent énormément de choses. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir quels sont les indicateurs qui ont amené SoftBank à investir et à choisir la France.
Oui.
Il parle de trois indicateurs qui sont très importants, parce que ce sont autant d'indicateurs que l'on peut, j'allais dire, en même temps, pointer du doigt pour leur faiblesse ou pour leur force. On parle d'énergie, on a entendu ce qu'il y avait de pire sur la situation énergétique de notre pays. C'est pourtant l'offre énergétique et la stabilité des prix énergétiques qu'il faut choisir.
J'ouvre une parenthèse.
Bien sûr.
On peut totalement balayer tout le débat autour de on consomme moins d'électricité aujourd'hui, on n'a pas besoin de PR supplémentaire.
Mais évidemment, on a entendu ces derniers mois. Enfin, c'est totalement malthusien d'avoir un raisonnement comme celui-là. Effectivement, il faut se projeter vers ce dont nous aurons besoin dans les décennies qui viennent. Donc, on a cette capacité de produire de l'électricité avec une technologie parfaitement maîtrisée et des coûts stables. On a, c'est extraordinaire, on entend ce qu'il y a de pire sur notre éducation et le président de SoftBank parle du système éducatif français et de l'extraordinaire capacité que nous avons à, entre guillemets, produire des ingénieurs. Et nous avons un grand retard dans les technologies numériques. Et néanmoins, on parle de la capacité de la France à être en pointe sur la tech et sur l'IA et avoir été quelque part en Europe leader sur ces sujets.
Oui.
Donc finalement, il y a les commentateurs et puis il y a ceux qui font.
Et oui.
Celui qui investit 75 milliards
et les faiseux,
de ses moyens
dans le temps
en France pour tous ces sujets, je pense qu'il faut l'écouter avec beaucoup d'attention.
Ouais, Elisabeth, du côté Emmanuel Macron a réussi son pari de l'attractivité quand même. C'est sa grande réussite du double quinquennat, si je puis dire.
Moi, je crois qu'effectivement, à chaque fois qu'on entend parler d'un investissement en France, on peut se réjouir.
Ouais.
On peut se réjouir parce qu'on fait ça sur un fonds dans lequel on voit énormément de choses qui sont en train, au contraire, d'être dans une baisse et dans une, quelquefois, dans une difficulté pathétique. Enfin, nous qui sommes dans les territoires, nous qui sommes dans l'industrie, ce que nous voyons autour de nous et ce que nous voyons avec réalisme, parce que c'est pas du négativisme, c'est pas mais c'est absolument dramatique en ce moment. Donc, chaque fois qu'on entend parler d'un investissement qui va créer de l'emploi et qui va créer de la valeur ajoutée, je crois que c'est très important. Je crois qu'il faut à la fois se dire que dans une période comme celle-là, on a à la fois peut-être les meilleurs ingénieurs au monde, on a des ingénieurs d'une qualité incroyable qui vont être les acteurs de cette transformation-là, et nous avons toutes les entreprises besoin de cette transformation, et à la fois on n'a jamais eu autant d'incivilité, c'est-à-dire de manque au comportement. C'est-à-dire que ces mêmes
jeunes... Ça, on l'a vu encore ce week-end. Hein.
Cette même jeunesse, je dirais, à la fois,
oui,
elle peut être la meilleure et la pire. Donc, ça veut dire que quand on a une bonne nouvelle, prenons-la. Mais prenons-la avec tout ce qu'elle nous engage, en particulier pour tout ce qui ne va pas. Et moi, je pense bien sûr à tous ces événements pathétiques du week-end, qui est quand même une grande preuve de décroissance de la civilité. Cyrulnik est en train juste de lancer un livre sur la civilité.
Oui.
Et bien, je crois que
Boris Cyrulnik,
plus que jamais,
oui,
ce livre-là est important. Plus que jamais, je pense à Édouard Morin, qui a été le grand champion de l'humanisme. L'humanisme, ça se construit sur des relations, et ces relations sont dégradées en ce moment. Donc, à la fois, on a une jeunesse qui est capable d'une grande capacité scientifique, et à la fois on a dans des lieux vraiment à se refaire, je dirais, une vraie réflexion sur comment va-t-on éduquer notre jeunesse de demain ?
Et ça passe par quoi, ça ?
Ben, ça passe certainement
par... L'école, la formation, l'éducation, c'est la faute des parents ?
C'est la faute à tout le monde, c'est la faute à chacun de nous, je dirais. Mais effectivement, les relations qui se détruisent, qui se dégradent, l'incapacité aujourd'hui à se traiter les problèmes autrement que par la violence, c'est une très très grande déformation de ce qu'on peut appeler la civilité, moi je dirais la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble.
François, on a beaucoup dénoncé les impôts de production ces dernières semaines, le gel du barème des allègements de charges, etc., etc. Bref, une fiscalité anti-business, si je puis dire. Est-ce que le succès de Choose France et du classement français, qui reste numéro un, le pays numéro un en Europe pour les investissements étrangers, ne montre pas qu'on peut avoir une fiscalité élevée et quand même être attractif ?
Alors, il faut s'en féliciter, bien sûr. Il faut quand même aussi faire toujours attention à ces annonces d'investissement à un horizon indéterminé qui ne se matérialisent pas.
Vous avez
forcément.
Raison. Ensuite, là, on a 45 milliards, oui, grosso modo,
il y en aura quelques-uns quand même.
2031, voilà. Voilà, les 75, on verra.
Voilà, donc il faut quand même faire attention. Ensuite, on est quand même dans les, il n'est pas anormal qu'on soit le premier pays pour les investissements étrangers, étant donné qu'on est quand même le deuxième ou le troisième pays de l'Union, deuxième de l'Union européenne, troisième
sur deuxième économie de la zone euro.
Voilà,
oui,
ça dépend des années avec le Royaume-Uni. Voilà, donc c'est pas très étonnant. L'envers de la médaille, c'est que si on a besoin. Le problème, c'est qu'on a besoin d'investissements étrangers.
Oui.
Et si on a besoin d'investissements étrangers, c'est parce que on n'a pas assez d'investissements venant de résidents français. Globalement, ça va paraître extraordinaire, mais globalement, nous avons une épargne qui est insuffisante en France par rapport aux investissements.
C'est ce que nous dit régulièrement Jean-Marc Daniel. Il n'y a pas assez d'épargne dans ce pays, alors qu'on a plutôt l'habitude de dire qu'il y a trop d'épargne.
Exactement. Mais oui.
De 19% est très élevé.
Mais parce que quand vous dites ça, vous ne pensez qu'à l'épargne des ménages.
Oui.
Or, ce qui compte dans l'équilibre macroéconomique entre épargne et investissement, c'est non seulement l'épargne des ménages, mais c'est aussi l'épargne des entreprises et l'épargne des administrations publiques. L'épargne globale française, c'est ça. Les entreprises n'ont pas assez d'épargne par rapport à leurs besoins. Quant aux administrations publiques, elles désépargnent massivement.
Ben oui,
et donc, globalement, on n'a pas assez d'épargne. Et c'est la traduction comptablement, c'est la même chose que le fait qu'on a un déséquilibre de ce qu'on appelle la balance des paiements courants.
C'est-à-dire
nos échanges, nos flux d'échanges commerciaux, de biens, de services, de revenus d'investissement sont déséquilibrés depuis 30 ans. Alors parfois, juste à l'équilibre.
On est à peu près à l'équilibre, on est revenu à peu près grâce aux services.
Il y a des années, on est juste à l'équilibre à peu près, mais globalement quand même, on est déséquilibré. C'est la même chose. Et donc, on a besoin, dans ces conditions-là, pour financer ce déséquilibre des paiements courants, soit on s'endette vis-à-vis de l'extérieur, ça c'est plutôt les administrations qui s'endettent,
oui.
Soit on fait appel à des capitaux étrangers, heureusement qu'on les trouve, donc ça c'est très bien, on les trouve, mais on est obligé de faire appel à des capitaux étrangers pour financer nos investissements. Donc c'est pas forcément une excellente nouvelle. Alors heureusement, pour revenir à la question, on y arrive en effet malgré nos impôts de production, etc.
Oui.
Mais parce que en effet, il n'y a pas que la fiscalité qui compte. C'est vrai, il y a aussi on parlait de formation. Bon, on a quand même jusqu'à présent, ça va peut-être changer dans le futur, mais on a une main d'œuvre relativement qualifiée. On a des infrastructures qui sont plutôt bonnes. Voilà, on a quand même d'autres atouts, tant mieux.
Oui, une position géographique aussi qui est.
C'est vrai qu'on a le reflet de ce slogan de notre président du en même temps. On a en même temps le meilleur et en même temps le pire. Mais je trouve intéressant d'avoir le regard d'investisseurs extérieurs sur notre pays qui ont le choix. Finalement, le choix que souvent, nous l'avons pas. Nous sommes ici et nous investissons un peu par obligation de proximité.
Oui.
Là, ils ont...
On est choisi. On est choisi.
C'est intéressant.
Quoi.
Il y a 75 milliards que SoftBank veut investir. Ils veulent les investir un peu partout sur la planète. Ils choisissent l'Europe et ils choisissent la France. Je trouve que c'est très intéressant quand même de se dire, vous savez bien, la BPI, quand elle investit dans une entreprise, elle dit, je veux d'abord un investisseur privé et j'aurai comme cela un indicateur d'un investisseur avisé qui viendra me guider dans mes investissements publics. Ben, c'est finalement un investisseur extérieur, plutôt avisé, qui regarde les contrastes partout et qui trouve nos contrastes plutôt intéressants. Je pense qu'il faut surtout pas s'endormir sur de lauriers de cette nature et abandonner le combat sur tous les points de faiblesse que vous avez soulignés, qui sont des combats absolument essentiels, ils sont civilisationnels. Mais en revanche, je pense que nous ne devons absolument pas nous dire que notre pays est perdu, que notre pays est
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un signe de réindustrialisation, oui, cet investissement massif dans les... Est-ce que les data centers ne sont pas les nouveaux hauts fourneaux de l'économie française?
Je voudrais insister sur ce point parce que c'est un point de compétitivité Elisabeth, de notre question pays après. D'avoir des infrastructures de cette nature sur l'intelligence artificielle. Et je reviens sur les interventions du président de SoftBank qui dit effectivement que face à la compétition de pays qui ont des main-d'œuvre sous-employées,
oui,
en tous les cas sous-payées, cette compétitivité coût sur la main-d'œuvre, eh bien l'IA et la robotique sont pour nous des armes de défense essentielles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi derrière ce que nous pouvons robotiser dans des usines très modernes, mais si nous ne le faisons pas, nous n'aurons même pas les emplois marginaux qui peuvent être associés à toute cette technologie qui sera numérisée. C'est vraiment un élément de compétitivité pour la totalité du reste de notre économie. Ça, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit, parce que ce n'est pas juste le maillon des data centers qui est important, c'est tout ce que...
Tout l'écosystème qui est autour, oui.
Tout l'écosystème qui concerne la totalité de l'industrie nationale.
Le data center, c'est vrai que c'est du béton et des serveurs.
Des serveurs,
avec assez peu de monde à l'intérieur, Elisabeth.
Et moi, je vous dirais, effectivement, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un plus l'autre. C'est-à-dire que si on veut que l'industrie devienne compétitive, se modernise, reste dans la course mondiale, parce qu'on n'a pas le choix. Si on n'est pas mondial, si on n'est pas dans la course mondiale, on n'existe plus, et ben c'est forcément avec l'intelligence artificielle, avec cette transformation-là dans l'industrie comme ailleurs, que ça va permettre de se jouer. Donc on se réjouit de l'un plus l'autre. Mais il faut le regarder avec réalisme, parce qu'effectivement, l'industrie, ça se décrète pas. Il suffit pas de faire une grande manifestation pour l'industrie. L'industrie, c'est de l'investissement, et c'est pour ça que je reviens sur ce qui a été dit. Et c'est du long terme. Et l'investissement, ça suppose qu'il y ait une capacité d'investissement.
Et, oui.
Et je reviens à une notion qui est peut-être pas très connue, c'est l'histoire du BFR. Le BFR, c'est le besoin
de fonds de roulement.
C'est-à-dire que nous avons besoin de la trésorerie, et à un moment où elle a été quand même mise en cause, qu'est-ce que c'est que la trésorerie d'exploitation ? Eh bien, c'est ce besoin financier qui nous permet l'investissement à un moment où on prend le risque d'investir. Donc voilà, je réinsiste sur cette trésorerie d'exploitation indispensable aux entreprises et qu'il ne faut pas fiscaliser avant même qu'on l'ait.
On parlait de compétitivité coût juste à l'instant, François. Ça nous amène au second débat ce matin, qui est celui de la hausse du SMIC. Ce matin, le SMIC, un coup de pouce, 2,4% d'augmentation du SMIC après une hausse de 1,8% au 1er janvier. C'est automatique. Dès que l'inflation dépasse les 2%, le SMIC est réindexé. Or, l'inflation, un glissement annuel, est de 2,4%. Effectivement, le problème... C'est que si, des années 70 jusqu'aux années 2000, la hausse du salaire minimum était tirée par la productivité était supérieure au SMIC, ça n'est plus le cas depuis un quart de siècle. Est-ce que, économiquement, on peut continuer à augmenter le salaire minimum au-delà des gains de productivité, François Hécal?
Alors d'abord, quand on compare le SMIC aux gains de productivité, il faut prendre non pas le SMIC en euros, qui est augmenté mécaniquement avec l'inflation, mais c'est le pouvoir d'achat du SMIC qui doit être comparé.
On rappelle la définition, voilà. Peut-être.
Donc le pouvoir d'achat, donc le SMIC corrigé. Or le SMIC depuis quelques années, il suit l'inflation, enfin mécaniquement, voilà, dès que l'inflation
il est indexé,
etc. Oui. Donc le pouvoir d'achat du SMIC en fait n'augmente pas. Il a augmenté dans le passé parce qu'on donnait des coups de pouce au SMIC, on a fait l'erreur, je pense qu'on l'a fait dans le passé avec beaucoup trop de coups de pouce au SMIC qui font qu'aujourd'hui le SMIC on a en France un niveau du SMIC par rapport au salaire médian ou salaire moyen qui est le plus élevé de l'Union européenne.
J'ai fait le calcul. On est à 67,5%.
Voilà, c'est ça, à peu près, dans les deux ou trois. Enfin, s'il nous place au premier ou deuxième.
Est-ce que c'est un niveau raisonnable ou...
Non, c'est trop. Et le résultat, alors on a été obligé de compenser ça dans le passé. Parce que, donc, ça résulte de l'histoire, donc essentiellement. Donc, on a été obligé de compenser ça dans le passé par des allègements de cotisations sur les bas salaires.
Les fameux allègements de charges.
Mais au bout d'un certain temps, on finit par plus avoir de cotisations. quasiment plus au niveau du SMIC. Il faut d'où après d'ailleurs les autres débats sur comment on fait,
oui.
comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat au niveau du SMIC sans augmenter le coût du travail, puisqu'il n'y a plus d'allègement possible, etc. Donc ça c'est le débat sûr. Donc on a fait une erreur dans le passé, c'est sûr.
Maintenant, bon, qu'on a corrigé.
Voilà, que le SMIC augmente comme l'inflation, comme il est. C'est vrai, on peut dire qu'il est quand même relativement élevé. Peut-être faudrait-il le désindexer. Il y a des débats là-dessus.
Mais c'est toujours très difficile à dire. On parle de salaire minimal et de gens qui sont payés 1500 euros par mois.
C'est assez contradictoire avec la suite de notre débat qui va être que certains considèrent qu'on n'est pas assez. Voilà, il y a le pouvoir d'achat à ce niveau-là n'est pas suffisant.
Rapprocher le net du brut pour le coup au SMIC, on y est quasiment. C'est 1500 euros.
Après, il y a d'autres solutions qui est de faire comme ce qui existe dans certains pays, c'est-à-dire de. Parce que le problème, c'est que le pouvoir d'achat du SMIC, il n'est pas du tout le même en région parisienne et d'autres régions.
On a parlé à un moment de SMIC donc, régionaux.
Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer aussi d'avoir un SMIC différencié par région ou différencié ou comme ça a été le cas dans certains pays pendant très longtemps en Allemagne, qui était laissé à la discrétion des branches, c'est le cas encore dans d'autres pays, laissé à la discrétion de branches professionnelles.
Alors des branches professionnelles, Léonidas, là, il y a 126 branches professionnelles qui passent sous le niveau du SMIC. Oui. C'est quand même
Ce débat, on sait très bien que le fait d'avoir indexé le salaire minimum sur l'inflation, c'est ce qui crée la spirale inflationniste. Elle le fait que alimenter
ce qu'on appelle les effets de second tour.
Les effets de second tour et le fait que dès lors qu'on a rattrapé avec le pouvoir d'achat sans croissance de la productivité le niveau des prix, eh bien les prix ne font qu'augmenter pour s'aligner sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc c'est une spirale absolument mortifère et je ne vois pas d'autre possibilité pour corriger à la fois pour les salariés et pour la préservation de l'économie un équilibre à peu près stable, que d'aller s'attaquer effectivement aux charges qui pèsent sur les salaires.
Ah oui, mais sauf qu'il y en a le débat. Quasiment plus, Léonidas. On est à 4-5 points autour du SMIC.
Il y a 250 euros de charges patronales qui restent sur le SMIC. Donc la totalité des charges salariales ont été supprimées.
Oui.
Il ne reste qu'une petite part de charges patronales. Et cette charge patronale, elle est probablement le réservoir sur lequel il est possible de, quelque part, maintenir un niveau de vie acceptable pour ceux qui sont au SMIC, autant relancer la spirale. Bon. À l'occasion, vous me permettrez de revenir sur un mot concernant les data centers, mais je ne veux pas interrompre le débat sur...
Elisabeth, c'est vrai que SMIC est à 1475 euros par mois.
C'est quand même difficile de
faire moins. Après, il y a une logique économique qui est que, superchargé pour l'employeur, en fait, c'est près de 2000 euros.
C'est ça le sujet.
La valeur du travail dépasse 2000 euros.
Le SMIC est devenu une espèce de chiffre emblématique, mais le sujet, c'est pas le SMIC, c'est l'ensemble des hauteurs de salaire. Chez nous, il n'y a personne au SMIC. Mais par contre, le vrai problème, c'est le problème des salaires vis-à-vis de l'inflation. Et cette maladie inflation, on l'a pas connue pendant des années. Donc, on avait une espèce de stabilité qui nous mettait quand même dans une situation assez logique, assez contrôlable. Aujourd'hui, on a cette maladie inflation qui revient tous les deux ans, tous les trois ans, ce qui est absolument dramatique. C'est-à-dire cette espèce de course de l'un par rapport à l'autre, c'est terrible parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'entreprise. Et l'entreprise, elle est dans une compétitivité mondiale, un endroit où les charges sociales, globalement, sont les plus lourdes d'Europe et où les aides aux charges, enfin la baisse des charges sociales, viennent être annulées. Oui. Donc c'est pathétique parce que ça met les entreprises dans une non-compétitivité. C'est ça le sujet, c'est quand on fait la boucle entière où on passe bien sûr par le salarié, où on passe par l'État qui donne les niveaux et par l'entreprise derrière, on s'aperçoit qu'on est dans une situation de déséquilibre parce que l'entreprise française aujourd'hui, elle ne peut pas assumer plus de charges vis-à-vis de ses salariés. Or, l'inflation revient. Donc, il y a effectivement ce grand dilemme qui nous revient. Et faisons attention à ne pas faire uniquement le travail de réflexion sur le SMIC, mais sur l'ensemble de l'échelle des salariés.
Bien sûr, parce que le problème derrière, c'est la SMIC, ce qu'on a appelé la smicardisation de la société.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il y a un tassement vis-à-vis des salaires moyens. On en parlait avec François Eckhall il y a une minute, qui est quand même extrêmement délétère dans la population, ce sentiment d'être rattrapé par le salaire minimum.
Mais le fait est qu'il y a un télescopage, vous avez raison de le rappeler, entre la nécessité d'essayer de trouver des marges de manœuvre avec une gestion des charges et le fait que le gouvernement pris lui-même en étau dans ses contrats budgétaires, est en train d'annoncer l'annulation des baisses des charges. Oui. Voilà. Donc, on est vraiment dans un moment où le risque de dérapage, d'un redémarrage du chômage est un risque qui pèse très gravement sur notre pays.
Parce
que la seule variable d'ajustement qui reste avec l'équation que vous décrivez très bien, c'est de se séparer de collaborateurs. Et ça, c'est dramatique.
C'est ça le risque qui arrive là, c'est la montée du chômage, François Hical.
Je crains que oui. Effectivement, c'est reparti.
Le corollaire, c'est ça, hein, avec un coût du travail qui augmente, si on n'arrive pas à trouver une création de valeur qui soit à la hauteur du salaire, bah, on n'embauche pas.
C'est, ah bah, le risque, c'est toujours oui, il y a toujours ce risque-là, bien sûr. Si on a créé ces allègements de cotisations au niveau du SMIC, c'était bien pour favoriser l'emploi.
Et ça a marché.
Ça a marché.
Ça a été très efficace.
Après, maintenant, il faut réfléchir. C'était d'ailleurs le sens du rapport Bozio-Vasmer.
Oui.
J'ai participé il y a 30 ans aux premiers allègements de cotisations sur les bas salaires.
Hein, c'est Balladur à l'époque.
C'est Balladur qui a commencé. Parce que à l'époque, on disait le chômage touche surtout les moins qualifiés, parce que le progrès technique, la concurrence des pays à bas salaires fait que voilà, il y a un fort chômage des non qualifiés. On entre maintenant dans un mouvement dans lequel on risque d'avoir un chômage des plus qualifiés. Ça, c'est l'intelligence artificielle, etc. Donc, comme le disait Bozio-Vasmer, il faut peut-être réfléchir, parce que c'est peut-être plus la peine aujourd'hui de cibler, enfin de concentrer toutes ces aides, ces allègements au niveau du SMIC. Peut-être faut-il revoir la pente de ces allègements, en faire peut-être moins au niveau du SMIC, peut-être un peu plus ailleurs. Enfin voilà, en tout cas, il y a une réflexion à faire.
Alors certains disent exactement l'inverse, cher François, c'est-à-dire qu'ils disent qu'au-dessus de SMIC, ça n'a plus d'effet sur l'emploi.
Ça, c'est le discours que j'avais, qu'avaient beaucoup d'économistes dans le passé, parce que on avait un problème de chômage des non-qualifiés, etc. Ça n'est peut-être plus vrai maintenant et pour les années qui viennent. Donc il faut réfléchir ce discours-là que j'ai tenu que je tiens depuis 30 ans.
Et qu'on tenait sur le plateau des experts encore la semaine dernière, avec Stéphane Carcillo notamment.
Les allègements sont plus efficaces au niveau du SMIC, etc. J'ai toujours raconté ça. J'en suis moins sûr. Peut-être aujourd'hui c'est sans doute vrai, mais est-ce que ça va être encore vrai dans les 2 ans, les 3 ans qui viennent, vu à la vitesse à laquelle vont les mouvements de manœuvre liés à l'intelligence artificielle, j'en suis moins sûr.
Bon, c'est intéressant. Oui. Donc, baisser les charges sur les hauts salaires, si on veut rester dans la compétition.
En tous les cas, les effets budgétaires et sur l'ensemble de l'économie d'un redémarrage de la croissance du chômage, c'est un désastre collectif.
Oui.
Donc, si chacun reconnaît, et je pense que c'est une logique évidente qu'on est déjà en train de voir à l'œuvre, que tendre la situation autour des salaires, commencer à revenir sur les allègements de charges avec ce discours sur les cadeaux qu'il faudrait retirer, enfin tout ça est absurde. La contrepartie de tous les allègements, c'était effectivement la baisse du chômage.
C'était l'emploi et ça a fonctionné.
La totalité de la remise en cause de tout cela, c'est le redémarrage du chômage.
Après, je vais être provoque, mais est-ce que 2 milliards de gel sur 73 milliards d'allègements de charges, ça va avoir le moindre impact sur l'emploi, François Hical?
Ça ne se verra sans doute pas.
Je rappelle qu'on doit faire 120 milliards d'efforts pour stabiliser la dette.
Bon. 2 milliards sur 70, c'est sûr que c'est pas énorme.
Est-ce que c'est pas politiquement, Elisabeth Ducôté, un moyen de préparer aussi peut-être le gel des aides sociales indexées l'inflation dans le prochain budget?
Les prémices d'une année blanche, oui.
Nous sommes dans le terrain. Nous sommes à Saint-Étienne et on est vraiment, je dirais, dans la réalité, dans le concret de l'économie d'une ETI. Eh bien, toute baisse, toute amélioration, je dirais, de la capacité employée est bonne. Dès qu'on voit les choses s'annuler, c'est quand même un très mauvais signe. C'est un signe et en même temps, ça conduit à moindre embauche, etc. Et n'oublions pas que
vous êtes PDG de Twan, vous entendez gel des allègements de charges entre 1 et 3 SMIC, vous dites
c'est
tout de suite.
C'est une mauvaise nouvelle.
Est-ce que vous dites tout de suite, j'embauche moins? Est-ce que vous réagissez immédiatement?
Ça nous oblige nous-mêmes à regarder plus et à regarder sous un angle qui est le nôtre, c'est-à-dire l'Europe. Nous sommes une société européenne, c'est-à-dire que nous avons notre propre société dans tous les pays d'Europe. Eh bien, nous sommes, nous, Européens, avec la capacité d'embaucher dans des endroits divers et dans lesquels le niveau scientifique, le niveau de formation, le niveau général des cadres que nous pouvons embaucher est devenu très bon.
Oui.
Je dirais, tous les pays de l'Est ont fait des énormes efforts, il y a des universités très bonnes. Donc, tout ça, c'est un problème de compétitivité. Où est-ce qu'on va pouvoir le plus être dans la bataille qui s'appelle la bataille du prix, qui est une bataille qui nous est imposée? Donc, toute mauvaise nouvelle pour la France ou toute mauvaise décision prise est une décision dans laquelle il y aura un impact sur le local. Et moi, j'en suis infiniment triste quand ça se passe comme ça.